Et on joint Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux et l'identité, directrice scientifique de l'axe 1 prévention, communauté et bien-être du réseau québécois COVID-pandémie. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, ça va bien, mais il y a des personnes qui sont en colère. Ben, ça nous arrive à tous et toutes d'être en colère, mais là, il y a une vraie colère montante citoyenne. Et vous avez intitulé votre chronique « Le Québec et la haine, comment expliquer la colère montante des citoyens, citoyennes? »
Oui, ben c'est ça. Il y a plusieurs journalistes qui ont rapporté une hausse de la haine et des actes violents, par exemple, envers les élus, comme des menaces, du vandalisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 6 septembre dernier, dans la presse, Marie-France Bazot écrivait qu'il y avait quelque chose de cassé, un déclin de la civilité dans notre société, puis elle pose d'ailleurs d'excellentes questions comme que vit cette colère et les menaces ouvertement exprimées, et puis surtout, comment répare-t-on une société cassée? Donc, je vais tenter d'expliquer cette colère-là, de proposer des pistes de solutions, puis je vais me baser sur une théorie que je connais très bien en psychologie sociale, parce que ça a été l'objet de ma thèse de doctorat il y a environ une vingtaine d'années. Cette théorie-là s'appelle la privation relative, donc la théorie de la privation relative.
Alors, qu'est-ce que la privation relative?
Bien, c'est un terme qui peut paraître compliqué, mais en fait, c'est pour exprimer le fait que nous faisons tous et toutes des comparaisons et que c'est les sentiments de frustration ou de colère causés par ces comparaisons peuvent être bien différents d'une personne à l'autre. Donc, deux personnes qui gagnent un salaire identique n'auront pas nécessairement le même niveau de satisfaction par rapport à ce salaire-là. Donc, le concept de privation relative est né un peu par surprise à la suite de recherches qui ont été effectuées par Samuel Stauffer et ses collègues aux États-Unis avec des soldats américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça fait longtemps, on parle des années 1949. Donc, c'est l'interprétation de leurs résultats de recherche inattendus qui a fait naître ce concept-là de la privation relative.
39-45, là, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Exact. Un petit peu après, là, les résultats sont sortis.
Oui.
Donc, les chercheurs croyaient que les aviateurs seraient plus satisfaits de leur travail comparativement aux soldats de la police militaire. Pourquoi? Ils avaient émis cette hypothèse-là car les aviateurs avaient plus de chances de promotion que les soldats de la police militaire. Donc, c'est normal de penser, Hélène, si vous avez plus de chances d'être promu, plus d'avantages dans votre travail, bien, vous allez être plus satisfaite de votre travail. Donc, c'était l'hypothèse qu'ils avaient émise. Par contre, les résultats ont montré exactement le contraire. Ce sont les soldats de la police militaire qui étaient davantage satisfaits de leur travail parce qu'ils se comparaient avec les soldats qui avaient aussi moins de chances d'être promus. À l'inverse, les aviateurs ne comparaient pas leur situation personnelle avec les aviateurs non promus, mais avec ceux qui avaient été promus.
Ah, oui.
Ils avaient été promus en plus grand nombre, donc ils se trouvaient un peu isolés dans cette situation-là. Donc, ça peut faire émerger une certaine colère, un ressentiment. Par la suite, donc je vous parle un peu d'historique en psychologie sociale, il y a un chercheur, Walter Runciman, qui a identifié plusieurs types de comparaisons possibles. On entend ça souvent dans notre quotidien. Moi, je ne me compare pas avec les autres, je me compare avec moi-même. Donc, il a vraiment fait une typologie du type de comparaison qu'on peut faire dans notre quotidien. Les comparaisons peuvent être personnelles. Donc, au niveau des individus, une personne peut comparer son salaire à celui d'une autre personne. Peut être collectif, donc au niveau des groupes, une personne noire, par exemple, pourrait comparer la situation financière des personnes noires à celle des personnes blanches. Les comparaisons peuvent aussi être sociales. Donc, une personne compare avec d'autres personnes ou d'autres groupes. Donc ici, une personne noire compare le salaire de son groupe avec celui d'un autre groupe, donc les blancs. Ou bien, les comparaisons peuvent être temporelles. Ici, il ne s'agit pas de se comparer avec autrui, mais de se comparer avec nous-mêmes ou de comparer notre groupe, mais dans le temps, donc avec le passé. Une personne pourrait se dire, ben, avant la pandémie, je gagnais beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. Finalement, le concept de la privation relative, il y a deux aspects importants. Donc, un aspect cognitif, c'est cette perception-là, suite à une comparaison, qu'on croit être désavantagée. Donc, on reconnaît que notre salaire, exemple, est moins élevé qu'avant la pandémie aujourd'hui. Mais aussi cette composante affective, c'est un sentiment de frustration ou de colère qui peut émerger en réponse à cette comparaison-là.
Mm-hmm.
Puis finalement, en lien avec ça, cet aspect cognitif et affectif-là, ça ne veut pas dire qu'une personne reconnaît sa situation de désavantage, qu'elle va nécessairement avoir beaucoup de frustration ou de colère, mais c'est souvent le point de départ, donc de reconnaître la situation de désavantage.
Et j'imagine qu'il y a des conséquences, là, ce sentiment de privation relative.
Bien, il y a plusieurs conséquences. D'abord, il y a des conséquences en lien avec le bien-être personnel et collectif. Donc, une personne qui a beaucoup de privation relative ou ce sentiment-là qui est assez fort, bien, va être un peu moins heureuse, aura une moins bonne estime d'elle-même ou une image plus négative de son groupe. Puis elle pourrait aussi avoir moins d'espoir pour le futur. La privation relative peut aussi mener une personne à adopter des comportements pour améliorer la situation qu'elle a. Par exemple, si elle considère qu'elle ne gagne pas un assez bon salaire, elle pourrait quitter son emploi, elle pourrait retourner sur les bancs d'école pour essayer d'améliorer son sort et sa situation personnelle. Finalement, il y a une autre conséquence aussi qui est reliée aux actions collectives que l'on peut poser, comme les mouvements de révolte, des soulèvements populaires, des révolutions. Donc ici, on parle de colère de personnes qui sont concernées, puis une colère qui s'exprime ouvertement pour modifier des conditions de vie de base qu'elle considère vraiment importantes à redresser. Puis ici, bien, ça peut aller jusqu'à des actes terroristes ou des actes violents dans l'espoir que la peur force le changement puis que la situation s'améliore ensuite.
Et Roxane, pour reprendre la question de Marie-France Bazot, comment on répare une société qui est cassée?
Bien évidemment, la théorie de la privation relative offre des pistes de solutions, mais surtout des pistes pour bien interpréter ce qui se passe. Donc, c'est évident qu'il y a plusieurs autres théories qui peuvent nous aider à comprendre la haine, la colère qui est ouvertement exprimée. Par contre, cette théorie-là nous permet d'aller à la source, c'est-à-dire qu'une simple comparaison que l'on peut faire, bien, peut mener les gens à, bien, peut faire émerger de la haine ou de la colère. Donc, ça nous amène à cette source-là. Donc, pour reprendre son expression, réparer notre société cassée, on peut tenter d'éviter, on pourrait se dire, bien, on va tenter d'éviter que les gens fassent des comparaisons pour pas qu'ils se sentent désavantagés. Mais ça serait un petit peu naïf. Je ne sais pas si vous connaissez, Hélène, mais le syndrome du voisin gonflable, on veut toujours plus que notre voisin et vice-versa. Donc, ça fait vraiment partie de nous de faire des comparaisons. Par contre, on peut tenter, comme société, gouvernement, dans nos groupes dans lesquels on travaille, etc., d'offrir plus d'opportunités aux gens pour qu'ils puissent sentir qu'ils ont la possibilité d'améliorer leur sort. Donc, c'est important que les gens ne se sentent pas pris au piège et qu'ils estiment qu'il y a des solutions pour s'en sortir, puis que la seule solution n'est pas la haine ou la violence.
Ouais.
Par exemple.
Et en conclusion, la privation relative, c'est un concept qui est important, d'après ce que vous nous avez dit, pour comprendre les mouvements dans notre société.
Oui, mais c'est vraiment né de ça. Puis moi, c'est ce qui m'a fasciné dès le départ, d'essayer de comprendre ces mouvements de masse-là, de révolte. C'est quand même quelque chose quand on pense à certains gouvernements qui ont tombé dans certains pays aussi suite à des révolutions. Donc, j'essayais vraiment de comprendre tout ça en arrière de ça. Donc, cette théorie-là peut nous aider. C'est un concept qui est super important puis qui est quand même un enjeu important parce que en ce moment, on est dans une crise économique, on parle d'inflation, d'insécurité financière, puis même parfois et de plus en plus d'insécurité alimentaire. Puis il y a beaucoup de recherches aussi qui ont montré que les inégalités sociales sont liées même à une espérance de vie qui est plus courte. Donc, se sentir désavantagé a des conséquences personnelles et sociales importantes. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, mais Jean Kerr a dit, pour terminer, c'est bien de pouvoir joindre les deux bouts, mais c'est encore mieux de pouvoir faire un joli nœud.
Oh, une belle boucle! Merci. C'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. Roxane, mais il faut aussi mentionner que votre chronique a été préparée avec la collaboration de Mathieu Caron-Diot.
Oui, Mathieu, qui travaille aussi beaucoup sur la privation relative. Oui, je le remercie d'ailleurs pour son aide.
C'était Roxane de la Sablonnière. On se retrouve dans 3 semaines, Roxane. Merci.
Merci. Bye-bye, Hélène.